Bonjour à tous, donc pour cette troisième étude de l'épître de Jean, de l'évangile de Jean, excusez-moi. Je vais vous dérouler un petit peu le plan de cette troisième étude. Donc, le titre général serait « Dans l'intimité de Jésus, son dernier discours ». C'est les chapitres Jean 13 à 17 particulièrement. Donc je vais commencer par un premier rappel, rapide rappel, et puis le contexte dans lequel on va arriver au dernier report, chapitre 13. Ça va être mon premier point. Le deuxième point, ça va être dans l'intimité de Jésus. Je l'ai divisé en premièrement. Je vais souligner la pleine maîtrise et la pleine connaissance des événements qu'avait Jésus lors de ce repas et comment il a transmis à ses disciples. Puis après, je vais faire un petit focus sur trois recommandations de Jésus. La première, c'est « Aimez-vous les uns les autres ». La deuxième, ce sera « Gardez mes commandements ». Ou suivez mes enseignements selon les traductions. Et la troisième sera demeurer dans mon amour. Et puis, on verra ensuite, à travers le passage de Jean chapitre 15, verset 1 à 17, le lien qu'il y a entre ces trois recommandations. Voilà. Donc, pour commencer, la semaine précédente, nous avons vu comment, dans son ministère public, Jésus se présentait comme celui qui a rencontré toute l'espérance d'Israël, qui était l'accomplissement. La réalité de toutes les fêtes d'Israël, de la Pâque, de la fête des cabanes, de tous les symboles d'Israël. Par exemple, il était le vrai pain vers lequel pointait la manne, la vraie source d'eau vive vers lequel pointait l'eau qui sortait du rocher dans le désert lors de la fête des cabanes, ou la vraie lumière vers laquelle pointait la colonne de lumière qui accompagnait les Israélites. Et ce soir, on va aborder le dernier repas d'adieu entre les disciples et leur maître, c'est-à-dire Jean, chapitre 13 à 17. Pour planter le décor de ce repas, on va rapidement survoler les deux chapitres précédents. Au chapitre 11, nous avons le dernier signe miraculeux de Jésus, sûrement le plus spectaculaire, celui qui semble impossible de nier, la résurrection de Lazare, qui est dans le tombeau depuis 4 jours. Il y avait une tradition chez les Juifs, c'est que l'âme errait autour du corps pendant 3 jours et pendant ces 3 jours-là, elle avait la possibilité de re-rentrer dans le corps. Le 4e jour, on était vraiment mort pour de bon. Et c'est ce qui s'est passé. Jésus a attendu 4 jours avant de ressusciter Lazare, volontairement. C'est lors de ce récit que Jésus affirmera à Marthe « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui place toute sa vie, toute sa confiance, excusez-moi, en moi, vivra même s'il meurt. » Jean 11, 25, suivi d'un appel à la foi envers Matthieu juste après, quand Jésus lui dit « Crois-tu cela ?» C'est déjà une anticipation, une préparation à sa propre résurrection qui aura lieu peu de temps après. Évidemment, il y a des grosses différences. Il faudra que des gens roulent la pierre du tombeau de Lazare et le délient après de ses bandelettes. Tandis que pour Jésus, la pierre a été roulée sans aide humaine et qu'il a traversé les bandelettes de lin et le linge du visage. On va comparer les deux passages. On va lire Jean 11, versets 38 à 40. Une fois de plus, Jésus fut profondément bouleversé. Il arriva au tombeau. On parle du tombeau de Lazare. C'était une grotte dont l'entrée était fermée par une pierre. Enlevez la pierre, dit Jésus. Marthe, la sœur du mort, dit alors. « Seigneur, il doit déjà sentir, cela fait 4 jours qu'il est là. » Jésus lui répondit, « Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» On ôta donc la pierre. Alors Jésus, tournant son regard vers le ciel, dit, « Père, tu as exaucé ma prière et je t'en remercie. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours, mais si je parle ainsi, c'est pour que tous ceux qui m'entourent croient que c'est toi qui m'as envoyé. » On voit déjà l'intention de Jésus dans cette prière publique, il veut susciter la foi. Cela dit, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors de là !» Et voici que le mort sortit du tombeau. Il avait les pieds et les mains entourés de bandes de lin, le visage recouvert d'un linge. Jésus dit à ceux qui étaient là, « Déliez-le de ses bandes et laissez-le aller. » Par contre, si on lit en Jean 20, versets 1 à 8, pour voir la différence, « Le dimanche matin très tôt, Marie de Magdala se rendit au tombeau. Il faisait encore très sombre. » Elle vit que la pierre fermant l'entrée du sépulcre avait été ôtée de devant l'ouverture. Alors elle courut prévenir Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. « On a enlevé le Seigneur de la tombe, leur dit-elle, et nous n'avons aucune idée de l'endroit où on l'a mis. » Pierre sortit donc, avec d'autres disciples, et ils se rendirent tous deux au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple, plus rapide que Pierre, le distança et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il vit les linges funéraires par terre, mais il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva alors. Il entra dans le tombeau, vit les linges qui étaient par terre, et le linge qui avait enveloppé la tête de Jésus, non pas avec les linges funéraires, mais enroulé à part à sa place. Alors l'autre disciple qui était arrivé le premier entra à son tour dans le tombeau. Il vit, il crut. Ils ont vu que Jésus était passé à travers les bandelettes et à travers le linge funéraire. Le linge funéraire était à sa place. Moi, on voit vraiment la différence entre les deux résurrections. Et de plus, Lazare, après sa résurrection, mourra plus tard. Jésus, lui, est ressuscité d'une autre résurrection. Lazare a retrouvé son corps d'avant. Jésus aura encore glorifié et il est toujours vivant pour l'éternité, alors que Lazare attend le retour de Jésus pour ressusciter définitivement. On pourrait dire que la résurrection de Lazare pointe vers la vraie résurrection de Jésus. Okay, c'est une anticipation de la vraie résurrection de Jésus. Comme on avait vu la différence entre la manne et le vrai pain, entre les adorateurs du temps de l'Ancien Testament et les vrais adorateurs du Nouveau Testament, Jésus, c'est la vraie résurrection, l'ultime. Mais le plus paradoxal, le plus incroyable peut-être dans ce récit, en tout cas moi ça m'a vraiment frappé, c'est suite à cet épisode que la décision de faire mourir Jésus est prise. Jésus donne la vie d'une manière éclatante et on le condamne à mort. Au chapitre 12, juste à la suite de cela, Jésus retourne à Béthanie, là où il a ressuscité Lazare des morts, et un festin est préparé à son honneur. Jean 12, verset 1 à 3. 6 jours avant la Pâque, Jésus se rendit à Béthanie, où habitait Lazare, celui qu'il avait ressuscité entre les morts. On prépara là un festin en son honneur. Marthe s'occupait du service, et Lazare avait pris place à table avec Jésus. Marie prit alors un demi-litre de nard pur, un parfum très cher, elle le répandit sur les pieds de Jésus, et les essuya avec ses cheveux, toute la maison fut remplie de l'odeur de son parfum. Donc on voit que le fait que Lazare est ressuscité est à nouveau souligné, et si on continue dans tout le chapitre, on voit que la résurrection de Lazare a eu un impact fort, et cela a poussé certains à croire, et les chefs des Juifs, à vouloir éliminer Lazare aussi. Regardez, si on lit toujours dans le chapitre 12, du verset 9, à partir du verset 9, « Entre-temps, on apprit que Jésus était à Béthanie. Les gens s'y rendirent en foule, non seulement à cause de Jésus, mais aussi pour voir Lazare, qu'il avait ressuscité entre les morts. Alors, les chefs des prêtres décidèrent aussi de faire mourir Lazare, car à cause de lui, beaucoup se détournaient d'eux pour croire en Jésus. » Et si on continue quelques versets après, au verset 17 à 19, « Tous ceux qui étaient avec Jésus lorsqu'il avait appelé Lazare à sortir du tombeau et l'avait ressuscité entre les morts, témoignaient de ce qu'ils avaient vu. D'ailleurs, si les foules venaient si nombreuses au-devant de lui, alors là, en fait, c'est dans le contexte quand il rentre à Jérusalem. Il est acclamé comme roi. Et si les foules viennent, c'est parce qu'il avait ressuscité Lazare, parce qu'il a fait, et parce que pour voir Lazare aussi. D'ailleurs, si les foules venaient si nombreuses au-devant de lui, c'était aussi parce qu'elles avaient entendu parler du signe miraculeux qu'il avait accompli. Alors, les pharisiens se dirent les uns aux autres, vous le voyez, vous n'arrivez à rien, tout le monde le suit. Donc, on voit qu'il y a dès le début un festin en son honneur, un accueil triomphal à Jérusalem, où en plus des juifs, il y a des non-juifs, au verset 20 du chapitre 12. Parmi ceux qui étaient venus à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête, il y avait aussi quelques personnes non-juives. Elles allèrent retrouver Philippe, qui était de Bethsaïda en Galilée, et lui firent cette demande, « Nous aimerions voir Jésus. » Très belle demande, hein. Philippe alla le dire à André, puis tous deux allèrent le dire ensemble à Jésus. Et il y a même, si on continue un peu plus tard, des dirigeants juifs, vers la fin du chapitre, au verset 42-43. Et pourtant, même parmi les dirigeants, beaucoup crurent en lui. Mais à cause des pharisiens, ils n'osaient pas le reconnaître ouvertement, de peur d'être exclus de la synagogue, car ils tenaient davantage à l'approbation des hommes qu'à celle de Dieu. Certaines Bibles ont, car ils tenaient davantage à la gloire des hommes qu'à celle de Dieu. Qu'à la gloire de Dieu. C'est peut-être une traduction mais plus intéressante. Et si on se rappelle ce que c'est que la gloire de Dieu, sa bonté, sa grâce manifestée, en gros, ils ont préféré la gloire des hommes, être loués eux, que recevoir la grâce de Dieu qui finalement, la grâce de Dieu se reçoit dans l'humilité. Si c'est grâce à Dieu, à lui la gloire et non plus à moi. Et à moi l'humilité de me savoir sauvé. Humilité et reconnaissance. Donc, dans ce chapitre, alors, quelque chose d'intéressant, vous avez rappelé les non-juifs qui vont voir Philippe et André, parce qu'ils ont des prénoms non-juifs, hein, ils ont des prénoms en consonance grecque, doivent se dire, avec eux, on va pouvoir faire le lien. Qu'est-ce qu'ils demandent ? Nous aimerions voir Jésus. Et comment va répondre Jésus dans ce chapitre à leur demande ? Jésus répond à la demande des non-juifs, donc, par l'annonce de sa crucifixion et de sa résurrection. Ils veulent le voir ? Eh bien, ils le verront réellement avec les yeux de la foi, quand il aura accompli le pardon de leurs péchés à la croix et sera ressuscité. Regardez, verset 24. Donc celui-ci lui répondit à la demande de Philippe et de André. L'heure est venue où le Fils de l'homme va entrer dans sa gloire. Ils veulent voir Jésus, il leur répond, l'heure est venue où le Fils de l'homme va rentrer dans sa gloire. Vraiment, je vous l'assure, si le grain de blé que l'on a jeté en terre ne meurt pas, il reste un grain unique. Mais s'il meurt, il porte du fruit en abondance. Si on continue un peu plus loin, il y a une voix qui se manifeste du ciel pour dire que le Père va manifester sa gloire à travers Jésus. Et Jésus leur déclara, au verset 30, « Ce n'est pas pour moi que cette voix s'est fait entendre, mais c'est pour vous. C'est maintenant que va avoir lieu le jugement de ce monde. Oui, maintenant, le dominateur de ce monde va être expulsé. Et moi, quand j'aurai été élevé au-dessus de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Voilà comment nous allons voir Jésus quand il aura été élevé au-dessus de la terre. Par cette expression, verset 33, il faisait allusion à la manière dont il allait mourir. Et à quoi ça nous fait penser ? Ça nous fait penser au discours de Nicodème, au dialogue plutôt, excusez-moi, entre Jésus et Nicodème. Et à la fin de ce dialogue, il y a un petit discours. Et verset, chapitre 3, verset 14, « Dans le désert, Moïse a élevé sur un poteau le serpent de bronze. De la même manière, le Fils de l'homme doit lui aussi être élevé, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui aient la vie éternelle. » Voilà, la manière dont Jésus va être vu, c'est à la croix, il va être élevé par sa crucifixion et après par son ascension, sa résurrection et son ascension évidemment. L'évangéliste donc finit cette session du ministère public de Jésus à la suite dans le chapitre 12, par un constat général d'incrédulité, si on lit le verset 37. Malgré le grand nombre de signes miraculeux que Jésus avait fait devant eux, ils ne croyaient pas en lui. Ainsi s'accomplit ce que le prophète Ésaïe avait prédit. Seigneur, qui a cru à ce que nous avons prêché? Et à qui ta puissance a-t-elle été révélée, ô Dieu? Là, c'est une citation d'Ésaïe 53. Mais cette incrédulité fait partie du plan de Dieu, donc ainsi s'accomplit. Donc Dieu n'est pas surpris. Hein. Ainsi s'accomplit ce que le prophète Ésaïe avait prédit. Cette incrédulité avait été prédite. Par leur incrédulité, les Juifs qui n'ont pas cru accomplissent les prophéties. Dieu le Père et le Fils sont en total contrôle de ce qui se passe. Donc cette incrédulité n'est pas un échec de l'Évangile. Ce qui n'enlève rien à la responsabilité de ceux qui refusent de croire. Il faut toujours garder ces deux vérités en tension. Il y a une pleine souveraineté de Dieu et une pleine responsabilité de l'homme. Si on amoindrit la souveraineté de Dieu en disant « Non, mais là, Dieu n'y est pour rien, c'est eux qui ont pleinement choisi. » Et si on écarte les décisions des hommes de la souveraineté de Dieu, eh bien, on va amoindrir sa souveraineté. Par contre, si on met toute la responsabilité sur l'homme, seulement, eh bien, je me suis un peu embrouillé, excusez-moi. En gros, ce que je voulais dire, c'est que voilà, si on diminue la souveraineté de Dieu, eh bien, du coup, si on met trop en avant la responsabilité de l'homme, seulement et seulement, on va croire que Dieu n'y peut rien dans ce qui se passe. Et si on met complètement en avant que la souveraineté de Dieu, eh bien, là, finalement, on va déresponsabiliser l'homme en disant, mais il est pourri, finalement, ça faisait partie du plan de Dieu. Or, Dieu est pleinement souverain. Et l'homme est pleinement responsable. Il y a quelqu'un qui le résume bien mieux que ce que je viens de le faire, c'est saint Augustin, par une phrase magnifique qui dit « Toi, Seigneur, créateur et régulateur de toutes choses, dont Dieu a tout créé et régulé tout, mais du mal, régulateur seulement. » Il n'emploie pas le mot « créateur » pour le mal. Donc, le mal est une irruption dans la bonne création de Dieu, mais il ne dépasse pas Dieu. Dieu l'utilise dans sa souveraineté comme un judoka utilise la force de son adversaire pour le mettre à terre. Il va utiliser la force de son adversaire pour le mettre à terre. Dieu utilise le péché pour le combattre. Là où ça va se voir le plus, c'est à la croix. Mais malgré ce constat d'incrédulité générale qu'on a vu, il y a un dernier appel à la foi, à la fin du chapitre 12, lancé par Jésus, avec les conséquences de l'incrédulité et de la foi qui sont soulignées. C'est dans les versets 44 à 50 du chapitre 12. On va juste lire le verset 47. « Si quelqu'un entend ce que je dis, mais ne le met pas en pratique, ce n'est pas moi qui le jugerai. Car ce n'est pas pour juger le monde que je suis venu, c'est pour le sauver. » Donc on voit que celui qui ne croit pas sera jugé, même si ce n'est pas par Jésus. Parce que Jésus est venu sauver, mais il y aura un jugement et un salut qui seront conséquences de la croix, de la foi ou de l'incrédulité. Donc on arrive au chapitre 13 à 17. Après le festin à l'honneur de Jésus, qui a été donné quelques jours avant à Béthanie, après l'accueil triomphal dans un premier temps à Jérusalem, et après le constat d'incrédulité générale et le dernier appel public de Jésus à croire en lui, on se retrouve au début du chapitre 13 avec Jean et avec Jésus et les siens. Donc on se retrouve au début de ce chapitre. Les autres évangiles précisent qu'il n'y avait que les 12 disciples avec Jésus lors de ce repas de la Pâque. Et parmi les fils conducteurs de ce passage, il y en a un qui ressort particulièrement au chapitre 13. Dès le début, c'est la pleine maîtrise et la pleine connaissance des événements qu'a Jésus. On va lire les trois premiers versets du chapitre 13. C'était juste avant la fête de la Pâque. Jésus savait que l'heure était venue pour lui de quitter ce monde pour s'en aller auprès de son Père. C'est pourquoi il donna aux siens qu'il aimait et qui étaient dans le monde une marque suprême de son amour pour eux. C'était au cours du repas de la Pâque. Déjà, le diable avait semé dans le cœur de Judas, fils de Simon Iscariot, le projet de trahir son maître et de le livrer. Jésus savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu d'auprès de Dieu et qu'il allait retourner auprès de lui. Donc, le premier verset nous dit que Jésus savait que l'heure était venue pour lui de quitter ce monde pour s'en aller auprès de son Père. Et il enchaîne en disant « c'est pourquoi il donna aux siens ». Il y a dans ce « c'est pourquoi » toute l'intention de Jésus. Il ne fait rien au hasard. Et alors qu'il sait ce qui va lui en coûter de repartir vers son Père, les affres de Gethsémané, le jugement injuste, la torture, la séparation avec son Père, la croix, et bien à ce moment-là, il pense aux siens qu'il aime. Et il va leur montrer une marque suprême de son amour. Et pareil, c'est redit au verset 3, Jésus savait que le Père avait tout remis entre ses mains et qu'il est devenu d'auprès de Dieu et allait retourner auprès de lui. Ça nous fait penser à Jean 10, 18 qui nous dit « Personne ne m'ôte la vie, je la donne et je la reprends quand je veux. » Donc tout ça a été un acte volontaire et en pleine conscience de Jésus. Et on voit aussi dans ces quelques versets une parfaite adéquation entre les pensées, les paroles et les actes de Jésus. Il savait ce qui s'est passé, qui allait se passer, il en a parlé. Et il a agi selon son plan. Et il y a une parfaite unité. Nous, à cause de nos péchés, on a été abîmés. Des fois, on peut penser des choses et puis dire le contraire. Ou on peut dire des choses et trop s'avancer et ne pas arriver à les faire. Ou on peut penser sincèrement quelque chose et puis quand on arrive devant la réalité, on se rend compte qu'on a été présomptueux sur ce qu'on a pensé. En Jésus, il y a pleine unité. Il n'a pas été abîmé par le péché. Il est sans péché. Il est Dieu, il est homme à la fois. Donc, dès le début du repas, Jésus sait, et c'est pourquoi il va agir d'une certaine manière. Et nous, en tant que lecteurs, nous savons aussi que Jésus sait tout. À ce moment-là du repas, de notre lecture, nous en savons plus que les disciples à qui il va révéler ce qui va se passer pendant la Passion, pendant cette fête de Pâques et après. C'est donc intentionnellement que Jésus va prendre la condition et la tenue du serviteur pour laver les pieds de ses disciples, préfigurant par là son sacrifice à la croix, qui sera encore plus une marque suprême, ce sera la marque suprême de son amour pour eux, un amour purificateur à la croix, comme celui du lavement des pieds. Parmi les disciples auxquels Jésus lave les pieds, il y a aussi Judas, et Jésus le sait. Si on regarde les versets 10 et 11, C'est Jésus qui répond à Pierre dans le premier temps. Jésus lui dit, « Celui qui s'est baigné est entièrement pur, il lui suffit de se laver les pieds. Or, vous, vous êtes purs, mais pas tous. » Jésus, en effet, connaissait celui qui allait le trahir. Voilà pourquoi il avait ajouté, « Vous n'êtes pas tous purs. » Donc, il commence à leur dire, à ses disciples, afin qu'ils comprennent que Jésus n'est pas victime des événements, qu'il ne va pas subir ce qui va se passer, mais qu'il est conscient que son heure est venue, et qu'à la fin, sur la croix, il pourra dire en Jean 19, verset 30, « Tout est accompli ou achevé, car il aura accompli sa mission, ce pourquoi il est venu sur terre. » Regardez, toujours par rapport à Judas, quand Jésus leur révèle ça petit à petit, parce qu'ils ont du mal à comprendre, dans le chapitre 13, toujours les versets 18 et 19. « Je ne parle pas de vous tous, je sais très bien quels sont ceux que j'ai choisis, mais il faut que l'Écriture s'accomplisse. Celui avec lequel j'ai partagé mon pain se retourne contre moi. Je vous le dis dès maintenant, avant que cela ne se produise, pour qu'au moment où cela arrivera, vous croyez que moi je suis. » Donc Jésus est conscient qu'il est en train d'accomplir les Écritures, que cela fait partie du plan de Dieu, et il traverse ce plan, il y va au-devant. Quand ses disciples repenseront à cette soirée, aux événements de la Pâque, à ce dernier discours, ils se remémoreront tout cela, et le Saint-Esprit leur rappellera. Ils se remémoreront tout ce que Jésus avait annoncé, et cela fortifiera leur foi en ce qu'il est, Dieu fait homme. Relisons le verset 19. Je vous le dis dès maintenant. Voyez les précautions que prend Jésus, voyez l'intention que prend Jésus. Je vous le dis dès maintenant, avant que cela ne se produise, pour qu'au moment où cela arrivera, vous croyez que moi, je suis. Je suis, ça fait référence à Dieu, hein, qui s'est révélé comme ça à Moïse. Je suis celui qui suis. Va voir les Israélites, dis-leur que je suis m'a envoyé vers eux. Hein. On continue au verset 21, juste un peu après. Après avoir dit cela, Jésus fut troublé intérieurement, il déclara solennellement, « Oui, vraiment, je vous assure, l'un de vous me trahira. » Donc, pour ceux qui ne l'ont pas encore compris, Jésus affirme qu'il va être trahi. On voit que ça le trouble, petite chose intéressante, parce qu'on voit qu'on peut être troublé intérieurement, et ce n'est pas du péché. On peut être tenté, et ce n'est pas du péché. Jésus a été angoissé, Jésus a été troublé, Jésus a été tenté, il a été sans péché. Hein, c'est quand même, donc on peut vivre pleinement notre humanité, on n'est pas appelé à vivre en tant que chrétien une humanité désincarnée, une humanité sans émotion, où on serait insensible. C'est pas du tout ça la spiritualité chrétienne. C'est une spiritualité qui vit de toutes ses émotions, mais qui les vit dans la confiance dans le Seigneur. Comme Jésus avait confiance en son Père, il nous appelle à avoir confiance en lui. On continue au verset 26-27. Quand Pierre fait demander par Jean, juste après, toujours sur le thème de Judas, parce que ça les travaille, hein. « Seigneur, de qui s'agit-il » au verset 26-27, Jésus lui répondit, « Je vais tremper ce morceau de pain dans le plat. Celui à qui je le donnerai, c'est lui. » Là-dessus, Jésus prit le morceau qu'il avait trempé et le donna à Judas, fils de Simon Iscariot. Dès que Judas eut reçu ce morceau de pain, Satan entra en lui. Alors Jésus lui dit, « Ce que tu fais, fais-le vite. » Aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi lui disait cela. Ils n'ont pas compris sur le coup, mais c'est répété là. Donc on voit que ils n'ont pas tout compris, mais ils ont tout entendu et c'est répété. Jean le réécrit et tout ce qu'avait dit Jésus s'est accompli. Puis on voit autre chose de très intéressant là, c'est que Jésus, en plus d'avoir lavé les pieds de Judas, lui offre le pain. Ça veut dire qu'il est assis à côté de lui. Ils sont 13 autour de la table, il est assis assez près pour lui donner directement le pain. Judas était proche de lui physiquement. Et c'est aussi un signe de communion quand on donne le pain à quelqu'un. Jusqu'au bout, Jésus a aimé son ennemi ou a traité Judas en ami, je ne sais pas comment on pourrait dire. Et puis il accomplit aussi les Écritures et il le sait car il les a citées au verset 19. Hein? Mais il faut que, on revient au verset 19, mais il faut que s'accomplisse l'Écriture. Celui avec lequel j'ai partagé mon pain se retourne contre moi. Au verset 30, on voit le départ de Judas dans les ténèbres. Dès que Judas eut pris le morceau de pain, il se hâta de sortir. Il faisait nuit. Ce « il faisait nuit », c'est souvent symbole de ténèbres spirituelles dans l'évangile de Jean. C'est les ténèbres physiques, la nuit, et les ténèbres spirituelles sont très souvent liées dans Jean. Et juste après, au verset 31 à 33, quand il fut parti, Jésus dit, maintenant, la gloire du Fils de l'homme éclate et Dieu va être glorifié en lui. Puisque Dieu va être glorifié en lui, Dieu à son tour va glorifier le Fils de l'homme en lui-même et il le fera bientôt. Mes chers enfants, je suis encore avec vous, mais plus pour longtemps. Vous me chercherez. Et ce que j'ai dit à tous, je vous le dis à vous aussi maintenant, vous ne pouvez pas aller où je vais. Donc ce que nous savions depuis le verset 1, que Jésus allait partir vers son Père, le lecteur le savait, là il le dit, Judas est parti, il se retrouve avec ses 11 autres disciples, et il leur dit clairement qu'il va repartir vers son Père. Et il dit qu'il va rentrer dans sa gloire, parce que le départ de Judas va être le début du processus qui va mener à la croix de la trahison, qui va aller jusqu'à la croix. Et c'est à la croix que la gloire de Dieu, c'est-à-dire sa bonté et sa fidélité, rappelez-vous la première soirée, vont éclater. La grâce et la vérité venues par Jésus-Christ vont éclater à la croix. Alors on reviendra plus tard sur le commandement d'amour de Jésus. On va juste lire là les versets 36 à 38, où Jésus annonce à Pierre que plus tard, il le suivra sur cette voie du martyr, mais aussi que dans un premier temps, il va le trahir. Versets 36 à 38. Simon-Pierre lui demanda, « Seigneur, où vas-tu ? » Jésus lui répondit, « Tu ne peux me suivre maintenant là où je vais, mais plus tard tu me suivras. » Mais Pierre reprit, « Et pourquoi donc, Seigneur, ne puis-je pas te suivre dès maintenant ? Je suis prêt à donner ma vie pour toi. » « Tu es prêt à donner ta vie pour moi ?» répondit Jésus. « Oui, vraiment, je te l'assure. Avant que le coq ne se mette à chanter, tu m'auras renié trois fois. » Jésus sait tout cela. Hein. Il a choisi ses disciples, contrairement à ce que se faisait à l'époque où les disciples choisissaient leur maître. Et c'est la même chose pour nous. Il nous a choisis. Il connaît notre passé, tous nos manquements, tous nos péchés, passé, présent, futur, nos limites, notre foi avec ses faiblesses. Il est notre Rédempteur, celui qui nous sauve, c'est reposant. Et Jésus aime Pierre. Rappelez-vous au début du chapitre 13, « Et Jésus donna aux siens qu'il aimait une marque suprême de son amour pour eux. » Et Jésus va mourir pour Pierre qui va le renier et pour tous les autres disciples qui vont fuir quand il va être arrêté. Hein. Alors toujours pour continuer dans le thème de Jésus qui agit avec intention, qui a décidé de nous sauver, qui n'est pas ballotté par les événements, mais qui accomplit ce pourquoi il est venu, on va continuer dans ce thème au début du chapitre 14. Donc, au début du chapitre 14, Jésus va rassurer ses disciples troublés. Bah, ils sont troublés par cette annonce de la trahison, par cette annonce du départ de Jésus. Ils ont eu du mal à comprendre la scène du lavement des pieds. Et donc, il va les rassurer par une exhortation à la foi en Dieu, à la foi en lui. C'est comme si Jésus disait « Faites-moi confiance ». Il leur donne une perspective éternelle. Après tout ce qui va se passer, il reviendra et ses disciples seront pour toujours dans sa présence. C'est les trois premiers versets du chapitre 14. Jésus dit « Que votre cœur ne se trouble pas. Ayez foi en Dieu. Ayez aussi foi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Si ce n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. En effet, je vais vous préparer une place. Lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. » Afin que vous soyez vous aussi là où je suis. La manière dont il va leur préparer une place, ben c'est en allant mourir à la croix. Parce qu'en mourant sur la croix, il va payer pour leurs péchés. Ils pourront avoir accès au Dieu Saint. La manière dont il va leur préparer une place, c'est en payant pour eux. Et on voit que au verset 5, si on continue un prêt, Thomas lui dit « Seigneur, nous savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir par quel chemin on parvient ?» Ça me fait un peu rire, excusez-moi, parce que on voit que tout est loin d'être clair. Hein. Et puis, je ne pense pas qu'on aurait mieux compris qu'eux, hein, évidemment. Hein. Et ce sera le cas jusqu'à la résurrection, jusqu'à l'ascension. Et tout s'éclairera après la Pentecôte. On voit qu'il y aura un mélange de compréhension et compréhension chez les disciples. Mais les disciples ont retenu ce que Jésus avait promis à ce moment-là. Et le disciple bien-aimé, Jean, nous l'a retranscrit au premier lecteur et jusqu'à nous. Si on continue au chapitre 14... Jésus commence à promettre la venue du Saint-Esprit. On le voit la première fois en 14, 16 à 20. On va commencer au verset 15. « Si vous m'aimez, vous suivrez mes enseignements. Et moi, je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur de sa cause, afin qu'il reste pour toujours avec vous. C'est l'Esprit de vérité, celui que le monde est incapable de recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Quant à vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il sera en vous. Non, je ne vous laisserai pas seul comme des orphelins, mais je reviendrai vers vous. Sous peu, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez parce que je suis vivant et que vous aussi, vous vivrez. Quand ce jour viendra, vous connaîtrez que je suis en mon Père. Vous saurez aussi que vous êtes en moi et que moi, je suis en vous. Donc, on voit, voilà, la venue du Saint-Esprit. À la fin du chapitre 14, au verset 28 et 29, Jésus reprécise qu'il part et reviendra, et qui dit cela afin d'affermir la foi de ses disciples qui verront ces événements se réaliser, événements qu'il a prédits. Il y a donc toujours cette intention d'amour, une intention de préparation de ses disciples dans tout ce discours d'adieu. Alors qu'il va à la croix, Jésus est plus soucieux du bien spirituel des siens que de lui-même. Il sait qu'il retourne au Père. Verset 28-29, on va quand même les lire. Hein. « Vous m'avez entendu dire que je pars, mais aussi que je reviendrai auprès de vous. Si vous m'aimiez, vous seriez heureux de savoir que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai prévenu dès maintenant, afin que ces choses arrivent, avant que ces choses arrivent, pour qu'au jour où elles se produiront, vous croyez. » Il prévient aussi ses disciples d'un autre aspect de la vie du disciple, c'est des difficultés qu'ils vont rencontrer dans ce monde. Là aussi, Jésus nous a pas pris au dépourvu, hein. Il ne nous a pas annoncé un faux évangile au tout rose et puis après on se retrouve face à des difficultés. Pas du tout. Donc on va lire pour ça le chapitre 15, versets 18 à 21. Si le monde a de la haine pour vous, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous faisiez partie du monde, il vous aimerait parce que vous lui appartiendrez. Mais vous n'appartenez pas au monde parce que je vous ai choisi du milieu du monde. C'est pourquoi il vous poursuit de sa haine. Souvenez-vous de ce que je vous ai déjà dit. Le serviteur n'est jamais supérieur à son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront vous aussi. S'ils ont gardé mes paroles, ils garderont aussi les vôtres. Mais c'est à cause de moi qu'ils agiront ainsi, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Souvenez-vous de ce que je vous ai déjà dit. Donc dans ces difficultés, ils ne seront pas seuls. Et ils seront soutenus par le Saint-Esprit, le défenseur, pour être témoins de qui est Jésus. Il y aura un double témoignage. Le témoignage des disciples et le témoignage du Saint-Esprit avec eux, le défenseur qui témoigne. Voilà. C'est un peu une continuation du procès cosmique entre Jésus et le monde. Hein. On en avait déjà parlé. Jésus a toujours témoigné. Ses œuvres ont témoigné pour lui. Le Père a témoigné pour lui. Jésus a été aussi témoin du Père. On est appelé à être témoin de Jésus face à ce monde qui ne veut pas croire. Témoigner de la vérité de qui est Jésus. Ça, on le voit au verset 26 et 27. Quand le défenseur sera venu, celui que je vous enverrai, chapitre 15, excusez-moi, verset 15, verset 26 et 27, chapitre 15, verset 26 et 27. Quand le défenseur sera venu, celui que j'en vous enverrai d'auprès du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra lui-même témoignage de moi. Et vous, à votre tour, vous serez mes témoins, car depuis le commencement, vous avez été à mes côtés. Vous, à votre tour, vous serez mes témoins. Car depuis le commencement, vous avez été à mes côtés. Alors, ça s'adresse particulièrement aux disciples, là, qui ont été à ses côtés, mais ça s'adresse à tout chrétien en même temps, qui témoigne, qui n'a pas vécu auprès de Jésus, mais qui l'a rencontré spirituellement. Hein. Donc, on voit que Jésus, là, à ce moment-là, avant le reniement de Pierre et la fuite de tous les autres, les affermit déjà dans leur future mission. Vous serez mes témoins, il n'en doute pas. C'est une prière pleine de foi, parce qu'il sait ce qui va se passer, il a confiance en ce qu'il va accomplir. Il a confiance parce qu'il sait que son œuvre va s'accomplir dans le cœur de ses disciples. Et il les affermit déjà dans leur future mission, qui est le prolongement de la sienne. Témoignage de qui est Jésus, le Christ, le Fils de Dieu, afin qu'en croyant, ceux qui écoutent leur témoignage aient la vie éternelle. Comme l'a fait Jean le Baptiste dès le début, qui a témoigné pour Jésus, comme le fait le disciple bien-aimé de Saint-Évangile, comme l'a fait la Samaritaine, comme l'a fait Lazare, comme l'ont fait les œuvres de Jésus. Voilà, tout le long, il y a un témoignage envers Jésus, tout le long de cet évangile. Et on est appelé à le continuer, les lecteurs sont appelés à le continuer, malgré les difficultés, et nous sommes appelés à le continuer. Tout comme la persécution envers Jésus ne le surprend pas, car cette persécution est l'accomplissement des Écritures, celles des chrétiens depuis 2000 ans sont aussi normales, entre guillemets. Alors ça ne veut pas dire que les Écritures, quand je dis qu'elles sont normales, attention, hein, les Écritures nous exhortent à prier pour pour que nous soyons en paix, si possible, envers les autorités, afin que nous puissions annoncer l'évangile librement. Elle nous invite à prendre soin et à prier de nos frères et sœurs persécutés, mais en même temps, nous avertissent qu'il y aura des persécutions. C'est dans ce sens-là que je dis qu'elles sont normales, entre guillemets. Elles ne sont pas normales parce qu'elles sont un péché, mais elles avaient été prévues par le Seigneur. Et elles sont même l'accomplissement des Écritures. On relit 15 et 25. Mais il fallait bien que s'accomplisse cette parole écrite dans leur loi. Ils m'ont haï sans raison. Et Jésus nous dit que ce sera notre cas aussi. En fait, ces persécutions sont le rejet d'un monde qui préfère les ténèbres à la lumière. Et quand quelqu'un sort de ces ténèbres pour rejoindre la lumière, il sort de ce monde pour rejoindre la communauté des disciples, qui tout en vivant dans ce monde, dans cette société, n'est pas de ce monde. Les disciples sont nés d'en haut de l'esprit. Regardez si on continue au début du chapitre 16, sur ce même thème, les quatre premiers versets. Je vous ai déjà dit tout cela pour que vous soyez préservés de toute chute. Pour que vous soyez préservés de toute chute. Car on vous exclura des synagogues. Et même l'heure vient où tous ceux qui vous mettront à mort s'imagineront rendre un culte à Dieu. Vous vous rappelez Saul de Tarse au début des Actes, avec ce convertissement ? Ils en arriveront là parce qu'ils n'ont jamais connu ni mon père ni moi. Je vous ai annoncé tout cela d'avance pour que, lorsque l'heure sera venue pour eux d'agir ainsi, vous vous rappeliez que je vous l'ai prédit. Je ne vous en ai pas parlé dès le début parce que j'étais encore avec vous. Donc on voit que tout cela est prévu dans le plan de Dieu. Hein, et ça doit faire écho au tout premier lecteur de Jean, particulièrement. Parce que si vous vous rappelez le contexte, j'avais dit que c'était des juifs qui s'étaient convertis au christianisme ou des prosélytes qui étaient passés du paganisme au judaïsme et après s'étaient convertis au christianisme. Donc c'était des chrétiens d'arrière-plan judéo-chrétiens et qui souffraient à cause de leur foi en Jésus et qui risquaient la synagogue. Et donc l'exclusion de la synagogue, excusez-moi, ce qui était très important, c'était une mort sociale, l'exclusion de la synagogue pour quelqu'un qui était d'origine juive. Et donc Jean leur rappelle... Jésus l'avait dit, quoi. Et puis ça fait aussi écho, évidemment, à tous les autres chrétiens persécutés. Alors là, on parle de la synagogue, mais ça peut être, pour dans d'autres cultures, être exclu de toute vie sociale, être exclu des fêtes religieuses, des fêtes de famille, avoir un accès limité, selon les gouvernements, aux études, être socialement rabaissé parce qu'on est chrétien, quoi. Ça met des barrières. Jésus a prévenu, ça peut arriver. Hein? Si on continue au chapitre 16, toujours dans le thème de la préparation, il va leur annoncer à nouveau la venue de l'Esprit. Regardez les chapitres 16, versets 12 à 14. « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais elles sont encore trop lourdes à porter pour vous. Quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans la vérité tout entière. Car il ne parlera pas de lui-même, mais tout ce qu'il aura entendu, il le dira, et il vous annoncera les choses à venir. » Il manifestera ma gloire, car il puisera dans ce qui est à moi, il vous l'annoncera. En fait, là, en plus de leur annoncer la venue de l'Esprit, il leur annonce le rôle d'enseignant de l'Esprit et le fait qu'eux, en tant qu'apôtres, vont être inspirés et vont écrire ce qui va donner les écrits du Nouveau Testament. Jésus a par avance prophétisé la constitution du canon du Nouveau Testament et le rôle des apôtres dans la constitution de ce canon. Donc, ce n'a pas été des décisions humaines, mais ça a été le fruit d'une prophétie, d'une parole de Jésus qui leur annonçait ce qui allait se passer. Et les apôtres ont été conscients d'écrire les Écritures à cause de ça. Pratiquement donc tout ce discours est une œuvre préparatoire. À la fin du chapitre 16, Jésus prévient ses disciples qu'ils vont tous fuir. Il leur annonce aussi où trouver la paix en lui, alors qu'ils souffriront des afflictions dans ce monde. 16, versets 30 à 33. À présent, nous savons que tu sais tout et que tu connais d'avance les questions que l'ennemi aurait te poser. C'est pourquoi nous croyons que tu viens de Dieu. Ainsi donc, leur répondit Jésus, vous croyez à présent? Mais l'heure vient, elle est déjà là, où vous serez dispersés chacun de son côté, et vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, puisque le Père est avec moi. Il fallait que je vous dise aussi cela, pour que vous trouviez la paix en moi. Dans le monde, vous aurez à souffrir bien des afflictions, mais courage, moi j'ai vaincu le monde. » Donc on voit que la paix se trouve en Jésus et les afflictions dans le monde, et il les prévient de tout cela. Donc on voit que c'est tout sauf un évangile à l'eau de rose, hein, c'est un évangile à la fois réaliste sur la rudesse de l'affrontement avec le monde incroyant que va entraîner le fait d'être lié à Jésus, mais aussi et surtout pleine de promesses encore plus réelles que les souffrances passagères de ce monde parce qu'elles sont liées au Dieu éternel. Je ne nie pas la réalité des souffrances et leur dureté, mais je dis juste là qu'elles vont être passagères, tandis que les promesses du Seigneur vont être éternelles. D'abord, dans ces moments rudes, il nous promet sa paix et sa présence par l'Esprit, et en plus, quand cela finira, nous aurons une éternité avec lui. Je reviendrai, je suis en train de vous préparer une demeure, vous rappelez au début du chapitre 14, et je reviendrai, vous serez éternellement avec moi. Ou quand il dit à la femme samaritaine que, en gros, la source d'eau vive qui va jaillir jusque dans la vie éternelle. Dieu est éternel, et donc ses promesses liées à sa personne sont éternelles, elles vont traverser les épreuves du temps. Et quand les épreuves de ce temps s'arrêteront, qu'on n'aura plus besoin de marcher par la foi, que vous rendiez face à face, on aura le plein accomplissement des promesses. Donc c'est incroyable. Donc cela, cette espérance soutient et aide à passer à travers les promesses, en plus de la paix que donne le Seigneur et de la présence de son esprit qui est promis. Au chapitre 17, Jésus va prier pour lui-même, dans les 5 premiers versets, pour les disciples qui l'écoutent, dans le verset 6 à 19, en grande partie, hein, et enfin pour tous ceux qui croiront en lui, du verset 20 à 26. Bon, des fois, si on lit dans les textes, ça se recoupe. Hein. Il y a des choses qui sont dites pour les disciples qui sont auprès de lui, mais qui nous concernent, évidemment. Il y a des choses qui prient pour nous, ça concernait aussi les disciples de l'époque. Hein, ça. Mais en gros, c'est quand même à peu près ça. Et si on lit, on va lire les 6 derniers versets, parce qu'il introduit en disant qu'il prie pour ceux qui vont croire en lui, grâce au témoignage de ses disciples. Donc, nous sommes de ceux qui ont cru en lui grâce au témoignage des chrétiens. Donc ça nous concerne. On va voir ce qu'il dit dans cette prière à la fin. « Ce n'est pas seulement pour eux que je te prie, c'est aussi pour ceux qui croiront en moi grâce à leur témoignage. » Donc on est au bénéfice de cette prière de Jésus. C'est incroyable, encore de nos jours. Hein. « Je te demande qu'ils soient tous un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme moi, je suis en toi. Qu'ils soient un en nous pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. » Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme toi et moi nous sommes un. Moi en eux et toi en moi. Qu'ils soient parfaitement un, et qu'ainsi le monde puisse reconnaître que c'est toi qui m'as envoyé, et que tu les aimes comme tu m'aimes. Incroyable, hein ? Nous sommes aimés de l'amour de Dieu, le même qu'il a eu pour Jésus, il a pour nous. Père, mon désir est que ceux que tu m'as donnés soient avec moi, là où je serai, et qui contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la création du monde. Père, toi qui es juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu et ceux-ci ont compris que c'est toi qui m'as envoyé. Je t'ai fait connaître à eux et je continuerai à te faire connaître pour que l'amour que tu m'as témoigné soit en eux et que moi-même je sois en eux. Donc on voit que Jésus, à travers ses prières, cette prière, sait que son œuvre va fructifier. Il sait. Pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. En fait, il en est sûr, c'est une prière pleine de foi. Et 2000 ans après, nous sommes toujours là. Et quand je dis nous, c'est pas seulement nous à Nîmes, hein, c'est dans le monde entier, il y a des chrétiens dans le monde entier. Parce que Jésus savait que l'œuvre qu'il avait accomplie allait continuer. Que le témoignage d'unité des chrétiens, malgré ce qu'on peut dire, on met souvent l'accent sur division, mais on oublie aussi tout ce qui a été fait grâce à l'œuvre du Seigneur. Eh bien, ça allait être un témoignage que ça allait attirer du monde. Et si on continue sur ce thème, Jésus accomplissant ce pourquoi il est venu et sachant toutes choses, on va voir rapidement, on va déborder du discours d'adieu et de la prière d'adieu. On va très rapidement survoler la passion. On voit, par exemple, chapitre 18, verset 4, lorsque Jésus est arrêté. Jésus, qui savait tout ce qui allait lui arriver, s'avança vers eux et leur dit « Que cherchez-vous ?» Donc voilà, au moment de son arrestation, Jésus sait. Si on continue sur la croix, chapitre 19, versets 23 et 24. Lorsque les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses vêtements et en firent quatre parts, une pour chacun d'eux. Restait la tunique qui était sans couture, tissée toute d'une seule pièce, de haut en bas. Les soldats se dirent entre eux, « Au lieu de la déchirer, tirons au sort pour savoir qui l'aura. » C'est ainsi que s'accomplit cette prophétie de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements, ils ont tiré ma tunique au sort. On voit que sur la croix, tout ce qui se passe est l'accomplissement des Écritures. Ce n'est pas du hasard. C'est le psaume 22, 19 qui est cité. Si on continue, verset 28. Après cela, Jésus, sachant que désormais tout était achevé, dit pour que l'Écriture soit accomplie, j'ai soif. Près de là se trouvait un vase rempli de vinaigre. On attacha donc une éponge imbibée de ce vinaigre au bout d'une branche d'hysope et on l'approcha de la bouche de Jésus. Quand il eut goûté le vinaigre, Jésus dit « Tout est accompli ». Il pencha sa tête et rendit l'esprit. Donc on voit que d'abord Jésus a donné sa vie, on ne lui a pas pris. Une fois que tout est accompli, il a penché sa tête, il a rempli l'esprit. Et puis on voit, c'est étonnant que là, il a conscience qu'il est en train d'accomplir les Écritures. Alors il a réellement soif dans son humanité. Il est en train d'être asphyxié sur une croix. Il n'en peut plus, c'est une torture. Mais en même temps, il dit cela aussi pour accomplir les Écritures. C'est vraiment incroyable. On voit cette maîtrise d'événements, cette conscience des événements jusqu'au bout de Jésus qu'il est en train d'accomplir, d'honorer son Père, d'obéir à son Père en accomplissant le salut et de nous sauver. Il y a les deux motifs. Il y a honorer le Père, aimer le Père, accomplir son plan et nous sauver. Les deux sont ensemble. Et même dans sa mort, si on continue, Jésus est dans le plan parfait de Dieu, dans son accomplissement. On va lire chapitre 19, versets 32 à 37 pour finir. Donc les soldats vinrent donc et brisèrent les jambes au premier criminel. Oui, le contexte. Il y a Jésus et les deux brigands autour de lui. La Pâque va arriver et les chefs religieux des Juifs veulent pas qu'il y ait des cadavres qui souillent la Pâque. Ça va être au niveau impureté rituelle, ça va pas aller. Et donc ils demandent à ce qu'on vérifie que les gens soient bien morts pour qu'on puisse les décrocher de la croix, pour qu'on puisse être pur pendant la Pâque. Et donc les soldats romains s'approchent pour vérifier s'ils sont morts. Et les soldats romains vinrent donc et brisèrent les jambes au premier des criminels crucifiés avec Jésus, puis à l'autre, donc pour qu'ils ne puissent plus respirer et qu'ils meurent plus rapidement. Quand ils arrivèrent à Jésus, ils constatèrent qu'il était déjà mort et ils ne lui brisèrent pas les jambes. L'un des soldats lui affonça sa lance sur le côté, sûrement pour vérifier s'il est bien mort, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui rapporte ces faits les a vus de ses propres yeux, et son témoignage est vrai. Il sait parfaitement qu'il dit la vérité pour que vous aussi vous croyiez. En effet, tout cela est arrivé pour que se réalise cette parole de l'Écriture. Aucun de ces os ne sera brisé. De plus, un autre texte déclare, ils tourneront les regards vers celui qu'ils ont transpercé. Donc on voit que même à travers sa mort, tout ce qui se passe est en train d'accomplir les Écritures. Et c'est de lui, du côté de Jésus, que sort l'eau vive qui purifie, qui donne la vie et que sort le sang. On a le symbole de l'eau qui purifie, de l'eau de la vie éternelle qui sort du côté de Jésus, et le symbole du sang qui purifie, qui sort du côté de Jésus aussi. Voilà un petit peu pour un survol du thème de Jésus qui sait parfaitement, qui connaît parfaitement, et qui a été animé d'une décision et d'un amour volontaire pour nous. On voit que tout cela était vraiment volontaire. Il y avait un désir de salut, un souhait de salut, et Jésus l'a accompli. Il y a aussi dans ce dernier repas de Jésus, avant sa passion et sa résurrection, avant son retour vers son Père, des recommandations que va donner Jésus. Ce sont ses dernières recommandations avant son départ. Elles ont donc une importance particulière. Alors j'en ai relevé 3 en particulier, il y en a d'autres. Certains en ont relevé 10. René Page, dans un livre de notes sur l'évangile de Jean, relève 10. Alors j'ai relevé les 3 qui m'ont semblé les plus importantes, sur lesquelles Jésus a insisté, et qui en plus souvent englobent d'autres recommandations. Par exemple, demeurez en moi et porter du fruit sont liés. Souvent, il y a demeurez en moi et vous porterez du fruit. Donc on n'est pas obligé de les séparer et d'en faire 2 recommandations différentes. Donc parmi les 3 recommandations de Jésus que j'ai retenues, il y a d'abord « Aimez-vous les uns les autres », que l'on lit la première fois en Jean 13, 34. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Oui, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Alors, il y a plusieurs choses étonnantes dans ce commandement de Jésus. La première chose, c'est qu'il est présenté comme un commandement nouveau. Or, si on lit Lévitique 19, verset 18. Vous allez voir ce qu'il est dit. Donc, dans la loi qui a été donnée par Dieu à Moïse et par Moïse à Israël. 19, verset 18, excusez-moi. Lévitique 19, 18. Tu ne te vengeras pas et tu ne garderas pas de rancune envers les membres de ton peuple. mais tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis l'Éternel. » Donc on voit qu'aimer son prochain faisait déjà partie de la loi de Dieu. Hein. C'est les pharisiens qui plus tard dans notre évangile ont rajouté, Jésus leur dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi, mais moi je vous dis, ce n'est jamais dans la Bible, tu haïras ton ennemi dans l'Ancien Testament. Hein. C'était les pharisiens qui avaient complètement détourné les choses et Jésus ramène le cœur de la loi. Il leur donne la bonne interprétation. Pareil, si on lit aussi, en parlant de l'ennemi, vous allez voir, si on lit Exode 23, versets 4 et 5, « Si tu rencontres le bœuf de ton ennemi, ou son âne égaré, tu ne manqueras pas de les lui ramener. Lorsque tu verras l'âne de celui qui te déteste succomber sous sa charge, et que tu n'auras pas envie d'aider cet homme-là, aide-le quand même à délester son âne. » Donc, voilà. Ce qu'il y a de nouveau, donc, c'est « Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. » Et même si on le lit dans le bon ordre, on va le relire. « Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai... » Comme aimez-vous les uns les autres, point. Oui, comme je vous ai aimé, on voit que le commandement est repris, mais en disant oui, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. On commence par comme je vous ai aimé, avant aimez-vous les uns les autres. L'amour du Christ est premier, il est fondateur de notre amour les uns envers les autres. Et pareillement envers Dieu, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Ça, on le retrouve dans 1 Jean 4, 10 et 19. C'est la même chose. Comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Donc, on est appelé à aimer à la mesure de l'amour selon Jésus. C'est ça la nouveauté de ce commandement. Saint Augustin, il dit, et je trouve que ça résume bien la mesure de l'amour de Jésus, qui nous invite à suivre aussi, c'est la mesure de l'amour, c'est d'aimer sans mesure. Et si l'on revient au début du chapitre 13, et qu'on relit les 5 premiers versets, on se rappellerait, c'est juste avant la fête de Pâques. Jésus savait que l'heure était venue pour lui de quitter ce monde, pour s'en aller auprès de son Père. C'est pourquoi il donna aux siens qu'il aimait et qui étaient dans le monde une marque suprême de son amour pour eux. Donc c'est de cet amour-là. Hein. On commence donc à avoir une idée de la puissance et de l'incroyable renversement des valeurs qu'entraîne ce commandement. Il nous a aimés jusqu'à prendre la tenue et la condition de serviteur envers ses disciples qui allaient le trahir. Et cela préfigurait la mort de la croix, comme on le verra au chapitre 15. Alors cet amour a pour cadre la communauté des disciples, il ne s'adresse pas à tous, c'est un amour particulier entre frères et sœurs, mais il va avoir un pouvoir attractif, ce n'est pas un amour qui va entraîner du repli sur soi, mais qui va détonner avec ce qui se passe dans le monde et qui va attirer les gens du monde. Juste après cette, voilà, c'est ça qui est incroyable. Juste après cette première citation du commandement nouveau de Jésus, on peut lire en Jean 13, 36 à 38, l'annonce du reniement de Pierre. Ça fait un drôle de contraste. Mais on va le lire parce que c'est intéressant. Simon Pierre lui demanda, « Seigneur, où vas-tu ? » Jésus lui répondit, « Tu ne peux pas me suivre maintenant, là où je vais, mais plus tard tu me suivras. » Mais Pierre reprit, « Et pourquoi donc, Seigneur, ne puis-je pas te suivre dès maintenant ? Je suis prêt à donner ma vie pour toi. »« Tu es prêt à donner ta vie pour moi ?» répondit Jésus. « Oui, vraiment, je te l'assure. Avant que le coq ne se mette à chanter, tu m'auras renié trois fois. » Donc, ce qui apparaît au verset 37, Pierre qui dit « Je suis prêt à donner ma vie pour toi », ben moi, je pense que Pierre était sincère. Il ne nous est pas dit qu'il trichait, qu'il mentait, qu'il pensait autre chose. Il est sincère dans ses sentiments. Il est sincère, mais présomptueux. Présomptueux de sa force, présomptueux de sa foi. Okay ? Il ne pourra donner réellement sa vie pour Jésus. Et il le fera vraiment, hein, l'histoire de l'Église en témoigne, que lorsqu'il aura compris que Jésus a littéralement donné sa vie pour lui. Cette notion d'amour qui apparaît dans le commandement de Jésus, qui est plus un amour don de soi qu'une émotion, hein, est encore plus explicite au chapitre 15 du verset 12 et 13. Regardez, si on passe au chapitre 15, versets 12 et 13. « Voici quel est mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme moi-même je vous ai aimé. » Donc on revient aux mêmes choses. Et la suite, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Voilà comment Jésus nous a aimés. Hein? Nous avons été vraiment aimés du plus grand des amours. Il nous l'a prouvé par la croix. Si on continue toujours au chapitre 15, verset 17, « Voici donc ce que je vous commande, aimez-vous les uns les autres. » Et juste après, on a, je vais lire le chapitre, verset 17 et 18, ensemble ça fait un contraste qui est saisissant. « Voici donc ce que je vous commande, aimez-vous les uns les autres. Si le monde a de la haine pour vous, sachez qu'il m'a haï avant vous. » D'un verset à l'autre, on parle de l'amour dans la communauté chrétienne et de la haine qu'on peut rencontrer dans le monde. Ok ? Le contraste est vraiment frappant. Francis Schaeffer, un penseur chrétien du XXe siècle, a écrit un petit livre qui s'appelle « La marque du chrétien » qui parle de l'amour fraternel, la communion fraternelle. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. C'est pour ça qu'il avait nommé ce petit livre « La marque du chrétien ». Pour finir sur ce thème de « Aimez-vous les uns les autres », il y a deux autres références qui parlent de cette notion de s'aimer les uns les autres. Le verset n'est pas littéralement cité comme je l'ai cité en Jean 13 et Jean 15, mais on retrouve la même chose. C'est dans la prière de Jésus, enfin cette même idée d'amour et d'unité, c'est dans la dernière prière de Jésus, au verset 11, quand il prie pour ses disciples, où Jésus dit « Bientôt je ne serai plus dans ce monde car je vais à toi, mais eux ils vont rester dans le monde. Père Saint, garde-les par le pouvoir de ton nom, celui que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous le sommes. » Donc on voit que cet amour des uns des autres, c'est aussi une demande de Jésus pour nous au Père. Donc évidemment, tout cela, on le puise dans... Ça se vit par la vie de Jésus, on ne le vit pas par nous-mêmes. Hein. Et nous sommes au bénéfice de cette prière. Et juste après, au verset 22-23, « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme toi et moi, nous sommes un. Moi en eux, et toi en moi. » Qu'ils soient parfaitement un et qu'ainsi le monde puisse reconnaître que c'est toi qui m'as envoyé, que tu les aimes comme tu m'aimes. La deuxième recommandation importante de Jésus, c'est garder mes commandements ou suivez mes enseignements selon les traductions. On va lire le chapitre 14, on la retrouve la première fois, je crois, au chapitre 14, versets 15 à 17. Si vous m'aimez, vous suivrez mes enseignements. Et moi, je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur de sa cause, afin qu'il reste pour toujours avec vous. C'est l'Esprit de vérité, celui que le monde est incapable de recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Quant à vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il sera en vous. Donc, on voit que si vous m'aimez, vous suivez mon commandement, et cette obéissance se fera par l'Esprit. Et en même temps qu'il introduit ce commandement, il introduit la venue de l'Esprit qui vivra en nous. Cette obéissance ne se fera pas à l'Esprit. La vie chrétienne et ses commandements ne peuvent se vivre réellement que par le Saint-Esprit. Et en même temps, Jésus parle de suivre ses enseignements, de garder ses commandements comme une preuve d'amour. Hein? C'est à la fois une preuve d'amour, ça va prouver que l'on aime le Seigneur, et en même temps, ça ne pourra se vivre que par le Saint-Esprit, que par la vie de Jésus en nous. Si on continue... Juste après, au chapitre 14, le verset 21 à 23, « Celui qui m'aime vraiment, c'est celui qui retient mes commandements et les applique. » Là aussi, on a ce côté, l'obéissance qui est comme une preuve de notre amour envers Jésus. Hein, une preuve tangible. On n'en reste pas au sentiment. Parce que sinon, on n'en reste pas aux déclarations, mais il y a quelque chose qui se passe. Donc, « Celui qui m'aime vraiment, c'est celui qui retient mes commandements et les applique. Mon Père aimera celui qui m'aime. Moi aussi, je lui témoignerai mon amour et je me ferai connaître à lui. » Jude, qu'il ne faut pas confondre avec Judas Iscariot, lui demanda, « Seigneur, pourquoi est-ce seulement à nous que tu veux te manifester et non au monde ?» Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il obéira à ce que j'ai dit. Mon Père aussi l'aimera. Nous viendrons tous deux à lui et nous établirons notre demeure chez lui. » Donc, on va exprimer notre amour par notre obéissance, comme je dis, une obéissance par amour, et une obéissance de gens qui sont rachetés de ce monde et en qui Dieu demeure par le Saint-Esprit. Donc on voit la différence entre la révolte qui anime le monde et l'obéissance qui va être produite par l'Esprit et qui est le fruit de l'amour entre nous et le Seigneur. Donc on est vraiment entre deux royaumes différents avec des valeurs complètement différentes et une vie qui est différente. Et enfin, la troisième recommandation de Jésus, ça va être demeurer en lui. Alors tout d'abord, on peut lire au chapitre 14, versets 10 et 11, cette notion de demeurer, mais entre le Père et le Fils, avant que ce soit appliqué à nous. Regardez, chapitre 14, versets 10 et 11. « Ne crois-tu pas que je suis dans le Père ?» Là, c'est Jésus qui répond à Philippe. Hein. « Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Ce que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même. Le Père demeure en moi, et c'est lui qui accomplit ainsi ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père. » Et le Père est en moi. Donc, cette notion de demeurer se retrouve déjà dans la Trinité, dans la relation entre le Père et le Fils. Tout comme, d'ailleurs, on pourrait dire la même chose pour les deux autres recommandations que j'ai données, hein. Aimez-vous les uns les autres, il y a déjà l'amour entre le Père et le Fils. Et la notion d'obéissance, c'est de garder mes commandements, on va voir plus tard que le Fils a obéi au Père. Donc, tout cela, finalement, on est invité à vivre ce que c'est vivre de toute éternité, déjà dans la Trinité, on est invité dans ce cercle d'amour. Et pour revenir à demeurer en lui, pour les disciples, pour nous, cette notion est demeurée et développée au chapitre 15. Et dans le chapitre 15 du verset 4 à 10, il y a 10 fois le verbe demeurer qui est cité. On va commencer par lire juste le verset 4 et 5. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Et moi je demeurerai en vous, c'est Jésus qui parlait. Un sarment ne saurait porter du fruit tout seul sans demeurer attaché au cep. Il en est de même pour vous. Si vous ne demeurez pas en moi, vous ne pouvez porter aucun fruit. Je suis le cep de la vie, vous en êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Dans les versets 4 et 5 que nous venons de lire nous montrent clairement notre dépendance à Jésus-Christ. Sans sa vie, il n'y a tout simplement pas de vie chrétienne. C'est la vie de Jésus-Christ en nous. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Le texte est très clair. Hein. Nous sommes appelés à porter du fruit en demeurant en Jésus-Christ. Le fruit pousse naturellement. Si le sarment est nourri par la sève du cep, par la sève de la souche, le fruit est une conséquence de cette sève, c'est une conséquence de la vie. Voilà. Et tout ce passage de Jean 15, là, les 17 premiers versets, Jean 15, 1, 17, va aussi mélanger les trois recommandations que l'on vient de voir, que nous avons survolées, hein, s'aimer les uns les autres, garder ses commandements et demeurer en lui. Bon, on va lire tout ce passage. C'est un petit peu, on arrive vers la fin de cette étude, mais on va lire dans tout ce passage. « Je suis le vrai plant de vigne, et mon père est le vigneron. Tous les sarments à moi qui ne portent pas de fruits, il les coupe. Et tous ceux qui en portent, il les taille, afin qu'ils produisent un fruit encore plus abondant. Vous aussi, vous avez déjà été purifiés grâce à l'enseignement que je vous ai donné. Demeurez en moi, et moi je demeurerai en vous. Un sarment ne saurait porter du fruit tout seul sans demeurer attaché au cep. Il en est de même pour vous. Si vous ne demeurez pas en moi, vous ne pouvez porter aucun fruit. Je suis le cep de la vie, vous en êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, on le jette hors du vignoble, comme les sarments coupés, ils se dessèchent, puis on les ramasse, on y met le feu et ils brûlent. Mais si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, vous l'obtiendrez. Si vous produisez du fruit en abondance, et que vous prouvez ainsi que vous êtes vraiment mes disciples, la gloire de mon Père apparaîtra aux yeux de tous. Comme le Père m'a toujours aimé, moi aussi je vous ai aimé. Maintenez-vous donc dans mon amour. Si vous obéissez à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, tout comme moi-même j'ai obéi aux commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Tout cela, je vous le dis, pour que la joie qui est la mienne vous remplisse vous aussi, et qu'ainsi votre joie soit complète. Voici quel est mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme moi-même je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce qu'un serviteur n'est pas mis au courant des affaires de son maître. Je vous appelle mes amis parce que je vous ai fait part de tout ce que j'ai appris de mon père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Non, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai donné mission d'aller, de porter du fruit qui soit durable. Alors le Père vous accordera tout ce que vous lui demanderez à mon nom. Voici donc ce que je vous commande, aimez-vous les uns les autres. Donc comment se maintenir dans l'amour de Christ? En obéissant à ses commandements. Donc demeurer dans son amour et garder ses commandements se recoupe. Hein. On va refaire un petit focus sur le verset 9 à 11. Comme le Père m'a toujours aimé, moi aussi je vous ai aimé, maintenez-vous donc dans mon amour. Si vous obéissez à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Donc voilà, demeurer dans son amour, c'est la manière de demeurer dans son amour, c'est d'obéir à ses commandements. Tout comme moi-même, j'ai obéi aux commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Tout cela, je vous dis, pour que la joie qui est la mienne vous remplisse, vous aussi, et qu'ainsi votre joie soit complète. Donc ça, c'est incroyable. Le Fils a obéi au Père et a trouvé une joie complète. Il y a une joie dans l'obéissance. Et cette joie, il veut nous la partager. Le Saint-Esprit se réjouit en nous quand nous sommes dans la volonté de Dieu. Et on le remarque, les moments dans nos vies où nous sommes le plus consacrés au Seigneur, l'obéissance ne nous pèse pas du tout. Au contraire, c'est une joie et le Saint-Esprit nous remplit. Hein. Et notre société actuelle veut nous faire croire, et c'est un puissant mensonge, et notre vieil homme adhère facilement à cela, que la liberté, c'est de faire ce que l'on veut quand on veut. C'est vraiment un vrai mensonge. Hein. La vraie liberté, c'est de vouloir ce que Dieu veut et d'y trouver notre joie. Le problème, ce n'est pas l'obéissance à Dieu qui est bon et qui sait ce qui est bon pour nous et qui veut notre bien, mais c'est notre cœur pécheur. Et c'est pour cela que le Saint-Esprit régénère nos cœurs, qu'on doit naître de l'Esprit. Et quand nos cœurs sont transformés, quand nous sommes dans une communion avec le Seigneur, que nous laissons le Seigneur nous transmettre son caractère, nous transmettre ses désirs, sa volonté, quand nous sommes habités par l'Esprit de Dieu, ben, nos volontés suivent les nouvelles inclinations de notre nouveau cœur. Jésus aimait obéir à son Père et il trouvait sa joie là-dedans. Autre jour, je revenais de l'école avec Gabriel. Et puis il me raconte qu'il a une copine qui dit que ben ma copine elle dit que ça doit être bien d'être adulte parce que on fait ce qu'on veut. Et puis je voyais que ça faisait écho chez lui aussi. Il y avait sa copine et puis il y avait lui. Et puis je commence à lui parler en disant mais tu sais papa il fait pas ce qu'il veut. Ben je dois aller travailler. Et puis on mange tous ensemble à la même heure. Et puis si je veux faire quelque chose je demande si ça gêne pas maman. Et maman elle fait pareil. Même les grands ils font pas ce qu'ils veulent et c'est pas grave. On ne fait pas toujours ce qu'on veut, mais on peut avoir de la joie dans ce qu'on fait. On n'est pas obligé de faire ce qu'on veut. On pense aux autres aussi. Enfin, voilà, on en parlait un petit peu. Et en fait, il y a une joie dans l'amour de l'autre. Et dans l'amour de l'autre, on ne va pas faire ce qu'on veut. Et si on aime Jésus, on ne va pas faire ce qu'on veut, mais ce que lui veut, quoi. Et on va trouver une joie. Le Seigneur va se réjouir en nous. Versets 12 à 17. Hein, comment demeurer en Christ, en gardant sa parole, je reprends. Voici quel est mon commandement. Donc, comment demeurer en Christ, en gardant ses commandements. Et verset 12. Voici quel est mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Donc je résume, comment demeurer en Christ, en gardant sa parole, en suivant ses commandements, et quelle forme va prendre cette obéissance, principalement en s'aimant les uns les autres, parce qu'il revient au commandement principal, aimez-vous les uns les autres. Donc notre amour pour Dieu va passer par notre amour pour les autres, notre service pour Dieu va passer par un service des uns pour les autres, envers les autres. Et autre chose qui apparaît dans ce passage sur l'amitié de Dieu, quelle est la différence entre un ami et un serviteur? Ben lui, le serviteur, il obéit par obligation seulement. L'ami a le privilège d'être aimé par son maître. L'ami n'est pas dispensé de l'obéissance. Il obéit par reconnaissance envers celui qui a donné sa vie pour lui et qu'il a introduit dans la relation avec le Père. Hein? Jésus, on est son ami parce que il nous communique sa volonté, on connaît son plan. Voilà, c'est toute la différence. Jésus, en mourant sur la croix pour nous, nous introduit dans l'amour éternel de la Trinité. Et notre obéissance va se faire par reconnaissance et par amour, et va prouver notre amitié. Il n'est pas dit dans le texte que Jésus est notre ami, mais il nous est posé la question de savoir si nous sommes son ami. Je pense qu'on peut quand même chanter sans problème « Quel ami fidèle et tendre », parce que quand il est dit il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, on voit que Jésus a vraiment agi comme un ami avec nous, même s'il est aussi notre Seigneur et notre Maître, il est aussi notre ami. Est-ce que nous sommes son ami? C'est une autre question que l'on doit se poser chacun dans notre communion avec le Seigneur. On est appelé aussi à porter du fruit, on revient au sarment, hein, et la manière dont le Seigneur va nous faire porter du fruit, déjà si on revient au début, c'est aussi en nous émondant, dans cette obéissance dont je parlais, qui se fait par le Saint-Esprit, va non plus pas toujours aller de soi, mais le Seigneur va utiliser les circonstances de la vie, va nous émonder, et il est maître de ces circonstances pour que la vie puisse pousser, et pour que la vie puisse avoir sa place, sa vie à lui. Et on revient au verset 16, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, non, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai donné mission d'aller, de porter du fruit qui soit durable. » Donc ça va être un fruit qui va aller jusque dans l'éternité, contrairement aux souffrances de ce monde qui sont passagères. Alors le Père vous accordera tout ce que vous lui demandez à mon nom. Voici donc ce que je vous commande, aimez-vous les uns les autres. Donc en demeurant, en gardant ses commandements, en s'aimant les uns les autres, on va avoir un amour qui porte du fruit. On est encouragé à aller dans le monde, à porter du fruit, tout en s'aimant les uns les autres. Et le fait d'être proche du cœur de Dieu, d'être en communion avec Dieu, va amener des réponses aux prières parce que nous allons prier selon le cœur de Dieu. Alors le Père vous accordera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Il est clair que tout cela ne peut se faire qu'en demeurant attaché à Jésus par son esprit. C'est un cercle vertueux. Demeurer dans la vie de Jésus-Christ en gardant ses commandements, c'est-à-dire principalement en s'aimant les uns les autres, et cela par la communion avec Jésus-Christ, par le Saint-Esprit. Tout cela se vit évidemment par la grâce de Dieu. Amen.